Vous écoutez Erdiwa, il est 16h.
Arrête ton cinéma!
Oui, je crois que je vais dire deux phrases dans cette émission.
Monty Python's Flying Circus.
Ton cinéma, l'émission qu'on regarde avec les doigts.
Voilà, donc bonjour aujourd'hui, bonjour, bonjour Gwen, bonjour Annel.
Bonjour Annel, est en train de faire la mécanique. Annel, voilà.
Alors, tout de suite, à vos agendas, n'est-ce pas Hugo?
Oui.
Puisque le 23e festival du film britannique aura lieu à Dinard, comme tous les ans, du 3 au 7 octobre de cette année.
Super.
Bah, vous avez qu'à m'emmener en week-end les garçons.
Mais pas de problème, tu fournis le véhicule, l'essence et tout, et on t'amène.
Oui.
Oui, voilà, donc.
Donc enchaîne.
T'as un programme.
C'est une arnaque. J'ai un programme. Non, c'est pas encore sorti. C'est en octobre.
Oui, non, ça dépend. Mais il y aurait pu avoir un réalisateur, titre.
Écoute, c'est la 23e édition du Festival du film britannique de Dinard, du 3 au 7 octobre 2012. Et ils ont un super site internet. Si vous tapez film britannique Dinard sur internet, vous tombez tout de suite sur leur site. Et le programme n'est pas encore en ligne.
Merci Annel de l'info.
Donc Gwen va nous parler du cinéma britannique.
Oui, alors voilà, donc l'humour britannique dans le cinéma. Alors d'abord, qu'est-ce que l'humour britannique, mes amis?
Alors c'est un mélange d'absurde, de non-sens, d'inattendu, je dirais.
Voilà, oui. Bah, je dirais que moi, il y a surtout une petite différence entre l'humour britannique, l'humour français et l'humour américain, qui est quand même...
Très gras.
Très gras, oui, voilà, c'est ça. Et surtout avec plein de références, parce que quand tu as des films comme « Y a-t-il un pilote pour sauver l'avion ?»« Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ?»« Les American Pie », »« Les Scary Movies », c'est toujours
Gwen
des films avec Kramer en
France. Gwen vient de citer 4 films qui n'existent pas.
Bien sûr, non, mais petit épané, excusez-la.
Ah là, oui, bah, c'est ça. C'est peut-être ça le big problème. Oui, enfin bon, c'est surtout un cinéma à référence, au moins des comiques à référence. Donc, c'est-à-dire que dans le cadre des Scary Movies, il faut avoir quand même digéré tous les films d'horreur qui ont existé pour... un peu comprendre l'humour. Moi, l'humour français est un peu plus potache, gentillet, dirons-nous, surtout avec pas mal de jeux de mots. Bon, peut-être que les Britanniques en font, mais là, évidemment, avec la traduction, ça tombe un peu à l'eau. Et par contre, moi, ce que je trouve, l'humour britannique, c'est surtout, oui, comme tu disais, Hugo, assez surréaliste, absurde, et même, je dirais, assez révérencieux, puisque eux, comme des proches disent, ils plaisantent sur tout, quoi. Ils ont vraiment aucun tabou.
Nous sommes d'accord avec toi.
Tout à fait, voilà. Parce que quand
Gwen, président.
Donc, par exemple, un film comme l'Irlandais, le John Michael McDonagh, avec Brendan Gleeson. C'est un flic irlandais perdu au fin fond du Connemara et en fait qui est complètement qui est raciste, qui utilise la drogue, qui va voir les prostituées. Donc voilà quoi. Moi, je dirais que ça, c'est un film purement britannique parce que. Je pense pas que les Américains le fassent, ou sinon ça risque d'être vraiment pipi caca. Et par contre, les Français ont tendance à éviter ce genre de sujet.
Je crois qu'ils l'ont fait déjà. Ça s'appelle Bad Lieutenant.
Oui, ça c'est un côté plus sérieux. C'est pas vraiment un truc comique.
Oui, c'est vrai.
Surtout ça. Moi, je dis effectivement, les Américains, soit on le fait vraiment humour en dessous de la ceinture, soit c'est un truc assez réel, quoi. Donc voilà, il y a tout ce côté-là du cinéma anglais sur ce côté un peu irrévérencieux. Aussi, ce qui a tendance à me moquer de certains cinémas, là comme le triptyque de Edgar Wright qui joue avec Simon Pegg et Nick Frost, comme The Shaun of the Dead, Hot Fuzz et bientôt en 2013 World End, donc qui font partie du triptyque Blood and Ice Cream. Donc, c'est une trilogie de films britanniques qui ont été faits donc, par ce trio, Pegg, Frost and Wright. Et en fait, le truc, c'est que dans ces films-là, à un moment, le personnage mange des cornettos. Voilà. Donc, c'est un gros truc. Et donc Shaun of the Dead, ça se moque des films de zombies de Romero. Hot Fuzz, c'est en fait l'histoire d'un policier qui débarque dans une petite ville et qui est vraiment
un super policier
et qui en fait c'est une petite ville qui semble totalement parfaite et tout, et qu'en fait finalement sous couvert de ça il y a carrément un complot d'une partie de la population pour dominer le reste de la population. Voilà. Et puis je voulais aussi parler de Cadavre à l'appel de John Landis, qui est aussi avec Simon Pegg et Andy Serkis, qu'on reconnaît dans le rôle de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, et qui est parti d'une histoire vraie de William Burke et de William Hare, donc d'un couple de criminels qui ont fait des crimes dans Édimbourg entre 1827 et 1828 et qui revendaient des cadavres à l'Edinburgh Medical College pour dissection.
Qui a lancé en fait le cinéma britannique, c'est surtout 4 mariages et un enterrement, quoi.
Il est quelques ingrédients qui sont indispensables pour réussir un bon mariage. Du tact.
Alors John, comment va ta somptueuse copine?
Ce n'est plus ma copine.
Ah. Dans le fond, c'est pas plus mal. Il paraît qu'elle se faisait culbuter par Toby Delisle au cas où tu l'aurais plaqué.
Maintenant, c'est ma femme.
Un garçon d'honneur discret.
Lorsque Bernard m'a annoncé qu'il avait choisi Lydia, je l'ai félicité pour ce choix, car ses autres fiancés potentiels étaient plutôt craignos. Cela dit, nous sommes ravis qu'elle soit si nombreuse parmi nous ce soir.
Des invités courtois.
Bonjour, je m'appelle Charles.
Ne dites pas de bêtises, voyons. Charles est mort il y a 19 ans.
Ah bon? Vous parlez d'un autre Charles sans doute.
Est-ce que vous prétendez que je ne connais pas mon frère?
Non, non.
Un prêtre chevronné.
Lequel vit et règne à vos côtés et le Saint-Esprit. D'esprit.
Et une mariée très tendre.
Oui.
Un film porteur d'un message. Ne vous mariez pas. À moins de tomber éperdument amoureux.
I feel it in my finger. I feel it in my toe.
Alors?
Divine.
Love is all around me. And so the feeling grows.
Hugh Grant et Andy McDowell vous invitent à 4 mariages et un enterrement. Le nouveau film de Mike Newell.
Par Dieu Tout-Puissant, je bénis cette union. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit.
Quatre mariages en enterrement, c'est Mike Newell.
Voilà,
je ne sais pas vraiment comment prononcer son nom.
Mike Newell.
N-E-W-E-2-L.
Newell.
Et c'est un mec qui a fait... j'ai un peu regardé la filmographie parce que moi, j'ai beaucoup aimé 4 mariages en enterrement. Mm-hmm. Et c'est quand même le mec qui a fait Donnie Brasco.
Ouais. Bon, il a fait aussi Prince of Persia. Hein.
Il a fait aussi Prince of Persia. Et il a fait Le Cheval venu de la mer. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film un peu poétique, romantique, un truc. En tout cas, rien à voir avec 4 mariages en enterrement, tout ça.
Et puis là...
Même pas l'humour anglais.
Voilà, et puis il a aussi fait Harry Potter et la Coupe de Feu.
Le 4, oui,
voilà,
tout à fait.
Tout à fait. Donc,
Et donc, je pense que c'est pas tant le réalisateur dans 4 mariages en enterrement, enfin, c'est quand même qui apporte sa touche, mais j'ai l'impression que c'est aussi les débuts de Hugh Grant et le début de Hugh Grant.
Tout à fait,
et
ouais.
La révélation de ce mec qui, pour moi, incarne vraiment l'humour britannique au cinéma.
Voilà, tout à fait, oui. Comme l'est un peu aussi Mr. Bean, donc Rowan Atkinson, qui fait partie aussi de la distribution du film.
C'est plus tard quand même.
Oui, ça d'accord, mais je veux dire...
La popularisation de l'humour britannique, c'était dans les années 60 que ça a commencé.
De toute façon, le début de l'humour britannique, c'est les Monty Python.
C'est les Monty Python, qui ont...
Enfin, il y a eu quelques films avant, comme Lady Killers, qui était pas en 1955 aussi.
Voilà. Oui, parce que les Monty Python, en fait, c'est une série télévisée, donc The Monty Python Flying Circus, qui a débuté en 1969 jusqu'en 1974 et qui a fait 45 épisodes.
Ils ont fait, je sais pas combien de films, 6
Non, ils en ont fait
plus,
trois.
Plus que trois.
En fait, il y a trois majeurs.
Il y a La Vie de Brian.
Oui.
Il y a Sacré Graal.
Voilà.
le dernier.
Le sens de la vie en 1983.
Et il y en a au moins trois autres.
Bah, après, il y a des petits, il y a un documentaire aussi qui a été fait sur les Monty Python et deux, trois films aussi. Mais ça, c'est vraiment les trois plus gros, quoi. Et donc, en fait, les six membres du Monty Python. Donc, il y a Graham Chapman, qui était le blond, qui joue donc le Brian et le roi Arthur. Il y a John Cleese, qui est très connu, qui est sans doute le plus connu des Monty Python, qui a joué aussi dans Un poisson nommé Vanda, qu'il a coécrit d'ailleurs, qui aussi joue dans Shrek et qui est le nouveau agent R dans James Bond. Il y a Eric Idle, Michael Palin, qui a aussi joué dans Un poisson nommé Vanda, et Terry Jones, qui est techniquement un Gallois. Et qui, lui, est sans doute le moins connu, quelque part, des Monty Python, et qui est quand même, pour certains, quand même la pierre angulaire de l'équipe. Et le dernier, c'est un Américain, c'est le fameux Terry Gilliam.
Et c'est là que j'ai confondu, parce qu'il a fait, par exemple, Le Baron de Munchausen, et je pensais que c'était un film des Monty Python, et en fait, c'est que de Terry Gilliam.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, Terry Gilliam a participé
au... Et Brasil aussi.
Voilà, et Brasil, et L'Armée des Douze Singes, Las Vegas Parano, Thaïlande, et l'Imaginarium du Docteur Parnassus, Les Frères Grimm. Voilà. Et puis un fameux aussi Don Quichotte qui devait se faire avec Jean Rochefort et Vanessa Paradis et qui en fait est tombé à l'eau parce que tout le décor a été bousillé dans une tempête de sable. Voilà.
Il faut dire aussi que le cinéma britannique a souffert de la gouvernance de Madame Thatcher.
Ouais, tout à fait.
Elle avait instauré une taxe qui était assez mortelle, je crois, pour le cinéma britannique.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai entendu parler de cette période noire de l'histoire des films britanniques et effectivement avec l'apparition de Thatcher qui finalement n'a pas fait que la guerre dans les Malouines mais aussi à la BBC. Et autres, parce que ça a été aussi un peu la fin aussi de l'époque Monty Python en 1975, là, les problèmes de l'alcoolisme de Chapman qui a commencé à peser sur le groupe, John Cleese qui est parti, ils ont continué une saison sans lui et ils se sont arrêtés. Après, il y a eu les films et tout. Mais je pense que, tu vois, ça a été très important parce que autant les apports graphiques de Terry Gilliam, son esprit un peu foufou, ça a inspiré Alain Chabat. Et ouais, Robin des Bois, ouais. Voilà, tout à fait. Et donc, ça a été aussi une grande inspiration. Et effectivement, ça a été une partie. Il y a eu donc ce fameux trou noir de Margaret Thatcher. Et je pense qu'effectivement, l'apparition de Hugh Grant et de Quatre mariages et enterrements a redonné ses lettres de noblesse à cet humour britannique. Et beaucoup d'auteurs se sont incrustés dedans, comme Edgar Wright et tout. Parce que ce qui est fantastique dans ce cinéma britannique, c'est qu'on retrouve souvent les mêmes personnages, que ce soit Simon Pegg, que ce soit Nick Frost, Hugh Grant. Et quand tu regardes le film, par exemple, Love Actually, et ben, tu reconnais tout plein de personnages. Et si tu suis bien tous ces films comiques, et ben, à un moment, tu vois toujours ces personnages. Que ce soit dans Snatch.
Julia Roberts.
Voilà,
Joyeuse funéraille.
Voilà, tout à fait. Joyeuse funéraille aussi. Voilà. Puis Petit meurtre à l'anglaise aussi, qui est l'histoire d'un...
Tu peux redire ça, Hugo, s'il te plaît?
Très bon film.
Très bon film. Voilà. Incroyable. Je crois que c'est la première fois que je t'entends dire ça. Moi, j'ai relevé une petite. En fait, il y a un site internet sur internet qui est en fait un blog d'enfants, je crois, qui ont fait une étude sur l'humour britannique au cinéma, justement. Et donc, j'ai lu ça tout à l'heure. Et j'ai vu aussi qu'ils avaient relevé une réplique de Sacré Graal. Qui s'avère être une de mes répliques préférées. Et du coup, j'étais morte de rire devant l'écran. Pour donner un peu une idée aux auditeurs qui n'ont pas forcément vu Sacré Graal, de l'esprit des Monty Python, c'est le Sacré Graal, c'est l'histoire du roi Arthur, revu et corrigé. Oui. Et à un moment, le roi Arthur se retrouve devant une femme qui lui demande pourquoi, pour qui il se prend et pourquoi il leur donne de se taire. Et lui lui répond « Parce que je suis votre roi. » Et elle de lui dire « Je n'ai pas voté pour vous. »
« Oh, who do you think he is ? » ?»«
I'm your king. »«
Well, I didn't vote for you. » »«
You don't vote for kings.
» Alors, il dit « Les rois ne sont pas élus. » Et elle dit « Alors, comment vous êtes devenu roi ?» Alors, attention, petite musique, des choses assez incroyables. La dame du lac, le bras drapé de brocart chatoyant. Nanana, il lui raconte l'histoire d'Excalibur.
The lady of the lake, her arm clad in the purest shimmering samite, held aloft Excalibur from the bosom of the water, signifying by divine providence that I, Arthur, was to carry Excalibur. That is why I'm your king. Listen.
Et là, son écuyer lui dit écoutez, une bonne femme qui distribue des épées au fond d'une mare ne peut pas être la base d'un système gouvernemental. Le pouvoir exécutif est délégué par les citoyens et non par une pantomime aquatique.
Strange women lying in ponds distributing swords is no basis for a system of government. Supreme executive power derives from a mandate from the masses, not from some farcical aquatic ceremony. Be quiet!
Alors là, le roi Arthur commence à être énervé, lui demande de se taire et il répond « Oh, mais vous prétendez détenir le pouvoir exécutif suprême juste parce qu'une poufiasse faisant trempette vous a lancé une épée ?» Et alors, le roi Arthur redemande de se taire et il dit « Oh là là, mais si je me proclamais empereur juste parce qu'une radasse pourrie m'avait balancé un cimeterre, on m'enfermerait. Hein. » Et donc là, c'est la fin et je crois qu'il commence à lui taper dessus à un moment.
Oui, tout à fait.
Et lui, il dit « Regardez la violence inhérente au système. Au secours, je suis opprimé. »
Shut up, will you shut up? Ah, now we see the violence inherent in the system. Shut up! Oh, come and see the violence inherent in the system! Help, help, I'm being repressed, bloody peasant! Oh, what a giveaway, did you hear that? Did you hear that, eh? That's what I'm on about. Do you see him repressing me?
D'ailleurs, nous conseillons tous ces films à voir en VO. Hein. Ah,
oui, tout à fait. Tout à fait.
Je pourrais, pour bien, de toute façon, je crois que le Sacré Graal,
il est pas en VF d'ailleurs.
Ils sont tous en VO, je crois.
Ils sont tous en VO sous-titrés. Ouais, parce qu'en plus, il y a des blagues avec les sous-titres.
Voilà, tout à fait, oui. Bah, disons que, ouais, et puis il y a toute l'imagerie aussi, donc je disais, de Terry Gilliam, de ses dessins, le fameux chevalier lui.
We are the knights who say ni. No, not the knights who say ni.
Shrubbery.
A shrubbery. A what?
Parce que il faut savoir que quand même à une époque, ils ont été censurés quand même les Monty Python. Hein. Je veux dire qu'ils ont tapé vachement haut au niveau, je crois, au niveau des bijoux de famille, la couronne royale.
Oui. Et puis donc ils ont même été au niveau du clergé.
Voilà, c'est ça. Et donc ils ont été. Et je trouve que ça, c'est la base de l'humour britannique, c'est-à-dire que effectivement, on peut se moquer de tout. Il faut rester toutefois gentleman, c'est-à-dire avoir ce côté pince sans rire, ne pas être moqueur ni vindicatif. Alors que l'humour américain, moi je trouve que c'est hyper potache, enfin pas potache, mais c'est vachement gras. Les coups de pied dans les couilles, c'est quand même la base du cinéma humoristique américain.
Des vulgaires.
Un peu. Hein.
Oui, mais c'est normal, c'est mon côté américain. Voilà.
Donc, ouais, Hugh Grant dans Coup de Foudre à Notting Hill aussi, avec Julia Roberts, comme je disais. Hugh Grant qui. Moi, je l'aime bien parce que pratiquement dans tous ses films, sauf dans. Tout à l'heure, vous avez attiré mon attention sur le journal de Bridget Jones.
Tout à fait.
Mais enfin, je vais pas dire tous ses films, mais dans beaucoup de films et dans Coup de Foudre à Notting Hill, comme dans Quatre mariages et un enterrement. Dans ces deux-là, il joue un mec distrait. Hugh Grant est magnifique, c'est un très bel homme et très intelligent dans les deux films, mais il est tellement distrait, il arrive pas, il est maladroit, et du coup, il se retrouve toujours dans des situations, comme tu disais, inextricables et surtout des choses. C'est un comique de situation en fait. Et c'est juste à mourir de rire, mais en fait, t'as du mal à rigoler parce que c'est juste. Ah non, le pauvre, tu vois. Voilà, c'est ça que j'aime bien avec Hugh Grant. C'est dans Quatre mariages et un enterrement, il y a le comique de répétition aussi. Voilà,
et puis cette fameuse scène où en fait il se retrouve à table avec toutes ses ex et tout.
Oui, avec tronche de canne.
et la vomitif Véronica. C'est le début de pas mal de films. Donc, comme on avait parlé de Joyeuses Funérailles de Frank Oz, celui qui a créé Dark Crystal et qui est connu pour le Muppet Show. Et donc voilà, et là on a carrément les types qui se moquent d'un enterrement. C'est-à-dire que déjà au début du film, on voit donc un cercueil qui avance sur un plan et en fait les gens débarquent pour poser le mort face à ses enfants. Et là on découvre qu'en fait ce n'est pas le véritable corps voulu. Et donc voilà, et ça part de ça, et qu'en même temps il y a une autre histoire où le fiancé est complètement mortifié de se trouver devant son futur beau-père, et il croit prendre du Valium alors qu'il prend un super puissant hallucinogène, et qu'il se retrouve erré à poil en plein milieu de cérémonie. Et qu'à ce moment-là, il y a aussi l'histoire d'un nain qui se présente.
Ne raconte pas tout, Gwen, laisse un peu le.
Oui, non, mais qui
pour
se présente aussi.
Les gens qui n'ont pas vu.
Oui, mais il y a quand même l'histoire du nain qui se présente en disant qu'il a été l'amant du père, quand même.
Avec des photos compromettantes.
Avec des photos compromettantes. Voilà, c'est ça, la base. Ça, c'est la base de l'humour britannique.
Mais tu vois, je ne dirais pas la base, parce que l'humour britannique, ça, aussi dans la littérature, par exemple, Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles, c'est fabuleux, c'est croustillant d'humour anglais. Mmh. Et quand ça passe au cinéma, d'ailleurs, avec Tim Burton, on s'en rend bien compte, quoi.
Oui, tout à fait. oui.
C'est le Chapelier fou, c'est un Anglais, c'est un Britannique pur souche qui fait des blagues tout le temps, quoi.
Voilà, oui, avec ses, ce fameux lapin qui fait...
Tasse cuillère.
Non, mais voilà, l'absurde. L'absurde oui, est très important.
Voilà, c'est ça. Mais c'est, ça a été aussi la base de ce côté-là des Monty Python. C'est-à-dire qu'au début, ils ne commençaient pas avec le générique. Le générique pouvait arriver au milieu. Ils faisaient des coupures style l'émission est déjà terminée. Ils faisaient avec des images fausses de la BBC. Il y a ce côté-là où, au milieu du sketch, il y a par exemple le colonel Chapman qui arrivait, qui disait non, mais on arrête tout. Cette blague est absurde et tout. Il y a le fameux John Cleese qui arrive avec son fameux And now something completely different. Donc voilà, cette base-là de côté complètement absurde.
Et c'est ce côté qu'on retrouve chez les Robin des Bois, par exemple.
Tout à fait, dans le sens.
Mr Bean. Non ?
Ça ne vous parle pas, ça ?
C'est un peu comme les Monty Python. Il a commencé d'abord avec des sketchs quoi, télévisés. Et
c'est
ensuite,
25 minutes, ouais.
Voilà, et puis il me semble qu'il y avait une série, La Flèche Noire, The Black Arrow, qui se passait au Moyen-Âge et tout.
Mr Bean a marqué mon enfance à Noël avec le joyeux Noël de Mr Bean où il se met la tête dans la dinde.
Ouais. C'est ça.
Non, mais, et tout à l'heure, en préparant l'émission, j'en ai re-regardé un que j'avais encore peut-être déjà vu, mais Mr Bean passe des examens. Et c'est complètement nié, c'est enfantin, mais c'est... et puis il y a la boîte à rire et... Mais c'est vraiment une formule qui marche.
On l'avait dans les années 80 avec Benny Hill aussi. C'est vraiment dans l'humour anglais pur et dur, je dirais. Là. Parce que des fois, il y avait des sketchs que nous, on ne pouvait pas comprendre. Je pense que ça s'adressait plus aux Anglais eux-mêmes.
Voilà, tout à fait. Oui, il y avait des réflexions, là, les fameux écrits sur le mur et tout.
Puis c'était musical aussi, parce que tu avais des chants. Et...
Voilà, tout à fait.
Moi, je suis super déçue, par exemple, du passage au cinéma de Mr Bean. C'est pas des films qui m'ont marqué, alors que les sketchs, voilà, l'histoire de cette dinde, là, je crois que ça me restera à vie.
Celui quand il pique-nique, je crois, et qui lave sa salade à la petite fontaine et qui quitte ses chaussettes pour essorer la salade, ça c'est terrible aussi quoi.
Mais tu vois, c'est des trucs là dans Mr Bean passe ses examens, son voisin de cour, il sort un stylo pour l'impressionner et il le pose sur la table d'un air « Ah, j'ai un stylo !» Et là, Mr Bean va se mettre à sortir de ses poches des tonnes et des tonnes de stylos. Puis quand il a fini de sortir les stylos, il va sortir une figurine de la panthère rose. Et tu vois, c'est des trucs. Il essaye de copier et comme il n'y arrive pas à regarder la feuille de son voisin, il lance son stylo pour aller le ramasser et regarder. Enfin, tu vois, c'est juste magique.
Pour apprécier Mr Bean, je pense qu'il vaut mieux regarder la série télévisée que les films.
Ouais.
Mais c'est peut-être aussi le problème avec un certain cinéma commercial, c'est-à-dire qu'on s'est dit il y avait un produit qui marchait bien en série et on veut le passer en film. Et là, effectivement, moi
je crois que c'est lui qui a participé pourtant à l'écriture des films.
Oui, mais ça dépend. Ça dépend parce que après c'est peut-être des trucs que tu regardes à dose homéopathique. Oui. Je veux dire les Eric et Ramsey. Bon, excusez-moi si vous aimez pas, mais juste pour l'explication, le truc c'est que des fois ça marchait bien en 5 minutes quand ils faisaient leurs explications de mots, mais une heure et demie d'Eric et Ramsey, moi je trouve que c'est trop.
Mais c'est souvent le cas des humoristes. Hein. Voilà, tu prends Florence Foresti dans un film, tu prends Jamel Debbouze au début, je pense qu'en fait peut-être qu'ils ont amélioré leur jeu scénique, mais tu retrouves leur sketch. Hein.
Oui, non, mais ça dépend parce que si tu vois des films comme avec Franck Dubosc où c'est vraiment l'esprit Franck Dubosc, comme c'est l'esprit Eric et Ramsey, ouais. Je veux dire, quand tu prends des personnages comme Jamel Debbouze et que tu le mets dans Amélie Poulain ou dans Indigène ou voire même dans Mission Cléopâtre, dans La Chabat, je veux dire, c'est pas l'esprit de Jamel Debbouze, c'est un petit peu c'est lui parce que forcément on l'invite pour quelque chose, mais c'est pas tout son univers. Mmh. Lui il sert pas
il a su s'orienter
sur bref la Mr Bean, ça a pas bien fonctionné en tout cas, enfin c'était pas bon.
Oui.
Bah, c'est-à-dire que voilà, c'est le côté un peu malheureux de certains films, forcément.
Il joue dans 4 mariages et un enterrement, par exemple.
Tout à fait, le fameux prêtre.
Et il fait prêtre débutant qui se plante.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Est-ce que vous voulez bien épouser Choufleur ? Pardon, pas du tout.
Ah oui, surtout qu'en plus, le mari a quand même un nom à rallonge. Et à chaque fois, il est là. Allez-y, le monsieur.
Vous pouvez embrasser la mariée. C'est trop mignon.
Voilà, et puis je voulais aussi faire un petit clin d'œil à des films, je dirais, entre guillemets, d'animation, que ce soit Chicken Run, que ce soit Wallace et Gromit.
Et
le dernier qui est sorti, qu'on a parlé donc, pour le film.
Pirate.
Ah, c'était anglais,
bon, rien
aussi.
Mauvais
voilà, c'est ça. Ouais, oui. C'est de
pâte à modeler, là, les
dessins. De Nick Park. et tout.
Est-ce que du coup les films comme qu'on avait dont on avait parlé là de Guy Ritchie qui se passe dans un univers anglais rentre dans l'humour anglais?
Eh ben moi je dirais assez oui, parce que ce soit Snatch, après moi
Amour et Botanique
je connais pas celui-là, mais Snatch oui tout à fait. Moi je trouve que c'est ce côté vraiment absurde, c'est-à-dire qu'on prend des personnages et j'adore ça, ce côté-là où on présente tous les personnages avec des trucs vraiment très typiques de.
Il y a un problème avec les manouches ou les gitans.
Qu'est-ce que tu fous le poulet? Il va te faire voir.
On comprend pas grand-chose à ce qu'il raconte.
Ah t'es Tommy? Ça va pas la caravane?
Monsieur O'Neill.
Ah, arrête ta connerie. Appelle-moi Mickey.
Il bouffe les mots. Il parle mal.
Ça va bien?
Ouais, t'en es doux et puis ça a beaucoup à ici, tu sais.
Bref, le plus souvent, c'est du charabia.
Oh putain, l'enculé. Regardez la taille de ce type. Et tu mesures quoi? Hey, Mom, combien qu'il fait?
C'est une montagne, c'est sûr.
Emma! Ah, comment est ma star, celui-là? Et il fait de la boxe, de temps en temps, hein?
Et on fait toute une histoire autour de ça. Et moi, je trouve ça vraiment excellent. Et c'est vrai que, bon, après, c'est vrai que moi, je trouverais que c'est plus un humour britannique qu'un humour américain.
Pour un porc affamé, des morceaux de cadavre, c'est du coq au vin pour un poivreau. Vous devez raser la tête de vos victimes et leur arracher les dents. Ce sont les seules choses que les porcs ne digèrent pas. Vous pourriez les récupérer après, bien sûr. Mais vous n'avez pas envie de fouiller dans la merde de cochon, je suppose. Ils dévorent les os comme du beurre. Il vous faut au moins 16 porcs pour finir le travail en une seule fois. Aussi, je vous conseille de vous méfier des types qui élèvent des porcs. Parce que ces bestiaux sont capables de venir à bout d'un cadavre de 100 kilos en moins de 8 minutes. Ce qui veut dire qu'un porc peut engloutir en moyenne 1 kilo de viande crue toutes les minutes. D'où l'expression « se goinfrer comme un porc ».
Ah oui, tout à fait. Moi, je trouve ça très, très fin parce que l'humour n'est pas provoqué, justement. Il s'impose comme
oui,
ça. C'est pas drôle. La situation, elle n'est pas drôle, mais on peut en parler parce que c'est des vieux films.
Oui.
Arnaque, crime et botanique, à la fin. Bon, ça s'appelle quand même en anglais « To Lock and Smoking Barrel », je crois. Donc, c'est vraiment... il parle de deux fusils et de l'herbe, quoi. Donc, arnaque, crime et botanique. Et en fait, à la fin, il se retrouve en haut d'un pont. Il veut jeter les fusils dans l'eau parce qu'il va avoir un problème s'il n'arrive pas à les jeter dans l'eau. Et au même moment où il est au-dessus du pont parce que ça s'est coincé et qu'il n'arrive pas à les jeter, il est perché dans une situation tellement improbable. Il y a son téléphone qui sonne, donc il n'a pas du tout le temps de répondre. Il va d'abord jeter ses trucs et après, il répondra au téléphone. Et en fait, au téléphone, c'est son pote qui l'appelle pour lui dire « Ne jette pas les fusils, on va les vendre, on va se faire un max de thunes. » Et ça finit
oui,
là-dessus.
C'est des armes anciennes. Il faut
voilà, c'est des armes anciennes. Mmh. Et ça finit là-dessus et c'est juste magique parce que on voit pas s'il va les jeter finalement ou pas. Enfin, c'est ça, ouais. Vous en doutez bien. Mais tout le comique de situation est là. Et pendant tout le film, c'est la même chose. C'est cette histoire de pas de compréhension et nous on comprend mais qu'à demi-mot finalement, enfin tout se dénoue à la fin et c'est très 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 fort.
Je vais rajouter un film aussi, c'est We Are Four Lions,
ouais,
de Chris Morris, non? Tu l'as vu?
Ouais je l'ai vu, ouais.
Ouais, il est bien aussi, quoi. C'est Chris Morris, c'est l'homme qui a été élu le plus détesté de Grande-Bretagne en 2010.
Ah ouais?
Oui, il est très subversif.
Bah, il est un peu énervé, Hugo, parce qu'il prétend à ce titre en France. Et du ouais. coup...
bah, moi, je pense qu'il a quand même des bons points. Il a merci, une bonne avancée.
Donc, alors, dis-nous un peu.
Alors, ce film, donc, c'est un groupe de 5 Britanniques de confession musulmane qui, pour diverses raisons, qui vont se radicaliser. Donc, on assiste aux préparatifs, à l'entraînement, à la mise en place et à la réalisation d'un attentat par une bande de pieds nickelés musulmans. Quoi. Et c'est très, très drôle, je trouve. Mmh. Enfin, et ça, bon, ça finit mal, mais on n'en dira pas plus
mais
parce qu'il est récent.
Voilà, c'est drôle, mais c'est pareil, c'est grinçant comme humour.
Oui, parce que surtout, parler du terrorisme en 2010, donc tu vois, c'était quand même...
Ouais.
Non, oui. 2005, il est 2005, je crois, ce film.
Oui, mais justement... Oui, mais pire, ouais. Et on en revient au truc où, tu dis, évidemment, l'humour britannique permet ce genre d'humour, c'est-à-dire que ben on ose tout, quoi.
En même temps, ils sont sur une île là-bas, personne ne s'en
fait. Et d'ailleurs, pour faire un petit clin d'œil, depuis quelques années, les films d'horreur ou les films catastrophes se passent souvent en Angleterre parce que justement c'est une île. Il y a Doomsday ou ce qui se passe en Écosse. Il y a deux ou trois films qui se passent en Écosse. Je ne me rappelle plus lequel aussi. Et en fait, c'est ce côté-là, Le Fils de l'Homme, qui passe aussi en Angleterre. Donc, c'est ce côté
Faut pas oublier que tous les gros studios sont là-bas. Hein. Tu as beaucoup de films comme tous les James Bond, enfin pratiquement tous. Il y a pas mal d'autres films aussi qui ont été tournés à Londres. Hein, qui
oui,
a
mais
les
James
studios
Bond,
là-bas.
Il est anglais.
Et
c'est
puis, il y a aussi tous les grands acteurs aussi qui
anglais
sont anglais.
Si, l'anglais. Oui, non, mais ça veut rien dire.
Non, mais ça veut rien dire parce que voilà, parce que
tournage.
Là, parce que c'est le
non, mais ce que je veux dire, c'est que James Bond, il est censé être anglais, avoir la classe d'un anglais, l'humour d'un anglais.
Tout à fait.
Et finalement, c'est tourné par des Américains.
Ah oui, je voulais aussi parler d'un petit film qui est assez excellent, qui est Calendar Girls,
qui est sorti. J'ai pas compris le titre.
Calendar Girls, oui, les filles du calendrier, si tu préfères,
merci,
en version
merci.
Française, en 2000, qui est sortie en 2003, qui est de Nigel Cole, et qui raconte l'histoire de plusieurs vieilles dames du Yorkshire qui veulent poser nues pour un calendrier pour lutter contre la leucémie, puisque le mari d'une d'elles est victime de la leucémie. Et en fait, ça bouscule tout leur problématique vis-à-vis de la nudité et de l'âge, surtout. Et qui a remporté un grand succès, celui-là aussi. Après, si vous voulez rajouter quelque chose, les amis, c'est le moment.
Je peux conclure, l'humour anglais, donc je dirais, se place comme un humour humaniste, dépourvu d'influence de classe et appelant à l'autodérision afin de faire passer un message, une critique. Il joue sur les conventions et les barrières sociales en visant des institutions qui inspire habituellement le respect et donne un regard très insulaire sur le monde extérieur.
Tout à fait, complètement d'accord.
Vous pouvez voter pour moi.
Très bonne conclusion, selon moi.
Merci.
And now for something completely different.
J'ai fait une petite sélection des films qu'il ne faut pas manquer, ou alors plutôt qu'il faut manquer. Alors, pour commencer, c'est quelques films qui sont à l'affiche ce mois-ci, qui sont déjà passés au Pestel pour certains et qui continuent de passer dans d'autres cinémas. Et d'autres qui ne passeront peut-être pas au Pestel, je n'en sais rien. Alors tout d'abord, et pas dans l'ordre de préférence, j'ai sélectionné Chronique sexuelle d'une famille d'aujourd'hui, qui est un film qui est en train de faire parler de lui, par Jean-Marc Barr et Pascal Arnold. Donc quand on disait que l'humour anglais avait su aborder plusieurs sujets qui depuis longtemps nous étaient tabous en France, par exemple le sexe est tabou au cinéma, en tout cas en tant que tel, je veux dire, les films qui parlent de sexe crûment, ils passent en arrêt essai directement.
Oui, voilà, tout à fait.
Ou sans censurer.
Là, on a un film français pur souche, qui, à mon avis, n'est pas très très bon hein, dans son scénario, etc. Enfin, c'est ce que j'ai cru voir, je ne l'ai pas encore regardé en entier, donc bon. Mais en tout cas, ça a l'air criant de vérité. Le synopsis est pas mal, donc je vous le dis. Des petits déjeuners où les silences sont parfois pesants, des dîners où l'on parle de tous les sujets sauf de sexe. Le quotidien d'une famille d'aujourd'hui est ébranlé quand le fils cadet Romain est pris en flagrant délit lors d'un cours de biologie à l'école en train de se masturber et de se filmer avec son téléphone portable. Il risque l'exclusion. Romain explique que c'est un défi que les élèves se lancent entre eux, garçons et filles, pour le fun, et lui, il s'est bêtement fait prendre. Dès lors, le sexe qui était un sujet tabou au sein de la famille devient un sujet d'intérêt et nous basculons dans les vies intimes de chacun. Nous découvrons les vies sexuelles des parents, des trois enfants de 18 à 22 ans et du grand-père. Donc, c'est un film qui est sorti le 9 mai, donc je ne sais pas s'il va sortir ici, qui est classé comme comédie.
C'est un film français.
Et en fait, ce qui est intéressant, à mon avis, outre le film, c'est qu'aujourd'hui, dans l'hypersexualisation de la société, on a plein de choses qui sortent.
Et
c'est pas des choses, enfin c'est pas forcément des choses très saines. Mmh. Et là, je pense que dédramatiser la situation, on va dire d'une part, et surtout clarifier les choses sur la normalité de la sexualité, ça peut être intéressant donc de voir que le sexe c'est à tout âge et puis que effectivement tout le monde y pense peut-être, c'est omniprésent, mais ça doit pas être ni sale, ni hyper médiatisé, enfin, c'est comme ça.
Voilà. Moi, il me semble qu'il y a une série anglaise qui est sortie justement et qui parle beaucoup de sexualité, mais alors effectivement, dans ce cadre-là, c'est-à-dire d'une hypersexualité affranchie de tous les tabous, et même de drogue et tout.
Il y a Kaboom qui est sorti il y a pas longtemps, qui était très mauvais.
Oui, non, mais voilà,
ça
me fait penser à ça, quoi.
Là, c'est tiré vers l'humour, donc ce que je te disais, c'est que le film n'est pas forcément excellent, mais je trouve ça plutôt pas mal qu'on aborde des sujets comme ça, pas graves, mais qu'on aborde tous les sujets, quoi. Et c'est vrai que le sexe au cinéma, grand public, n'avait pas été abordé depuis longtemps, si je ne m'abuse. Voilà, donc c'est un conseil.
Jean-Marc Barr, alors donc.
Tout à fait. Alors. Chronique sexuelle d'une famille d'aujourd'hui.
D'accord.
Et la bande-annonce est assez parlante, c'est assez rigolo. Sinon, donc, comme on m'accuse toujours de parler de films un peu graves, je vous ai aussi sélectionné un autre film français qui va sortir. Alors, il faut savoir que Fred Testo, celui qui fait le service après-vente d'Omar et Fred, il est à l'affiche de plusieurs films en ce moment. Donc, on l'a vu sur la piste du Marcipulami.
Tout à fait.
On va le voir dans... C'est l'ombre d'Omar Sy.
Oui, tout à fait. On l'a vu dans... Enfin, on l'a vu. Moi, je ne l'ai pas vu et je vous conseille de ne pas le voir. Dans See, No Sex and Sun. C'est un film français aussi sur les vacances. C'est un peu les bronzés font du ski et les petits mouchoirs mélangés en moins bien.
Mon Dieu.
Et là, donc, Dépression et des potes, on va dire que c'est le film de Fred Testo à l'affiche qui sauve la mise aux deux autres. Donc, c'est un film d'Arnaud Lemort. Qui raconte donc une bande de potes parisiens un peu bobos, je sais pas trop, avec donc c'est Jonathan Lambert et Harry Elmaleh, deux acteurs qui sont plutôt sympas dans les films français, comédies. Et donc il raconte la dépression de Fred Testo et ses potes vont essayer de le faire oublier.
Oui,
ça.
Oui, j'ai vu des bandes annonces. Il a l'air assez excellent.
Ça, bah, excellent, je sais pas, mais en tout cas ça peut faire sourire et c'est vrai que pour le coup j'ai trouvé ça important de souligner que Fred Testo avait fait un truc assez bien par rapport aux deux autres que je trouve plutôt médiocres.
Ouais, les bonnes comédies sont rares aussi. Hein.
Tout à fait.
Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de films quand même plus négatifs que positifs. Quoi.
Voilà, ouais.
Donc là, voilà. Donc là, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être détente, quoi. Un vrai bon film
détente.
C'est
ça,
tu sors
oui,
et avec le smile.
Bah,
et...
je dirais un humour, comment ça s'appelle, je dirais
potache,
pas, mais...
comme tu aimes.
Non,
potache.
Non, au contraire, pas potache, mais non, je veux dire, non, l'humour potache, moi, ce que j'appelle, c'est l'humour style de
gras,
du
ouais.
Cobu.
Mmh.
Donc, voilà.
Ah, parce qu'il y a de l'humour dans du Cobu.
Bah, il paraît, ouais. Mais voilà, non, je veux dire, c'est le film aussi bah, français.
Genre dîner de con, quoi.
Moi, je dirais pas dîner de con, mais c'est ce côté où on trouve des histoires entre amis, quoi. C'est-à-dire, on prend un fait du quotidien et on fait une comédie là-dessus.
Ouais, ça,
on
c'est
est fort
peu...
en ça, nous. Hein.
Mais, ouais. Mais là, ça a pas l'air potage, justement.
Ah, non, mais justement.
Des potes, ouais,
non,
ça a
mais
l'air.
Voilà.
C'est ouais, c'est... bon après.
Non, mais moi, quand je disais les mots potage, c'était pour être entre guillemets un peu méchant, parce que moi aussi, je me présente contre Hugo.
Il y a un film dont on avait vaguement parlé et donc j'ai vu très récemment cette semaine, en vrai, et que je vous conseille vivement, c'est Hasta la Vista, et je sais que tu l'as vu aussi, Gwen.
Ah, oui, tout à fait, oui.
Donc, trois jeunes d'une vingtaine d'années aiment le vin et les femmes, mais ils sont encore vierges, normal.
Trois jeunes belges, hein.
Oui, trois jeunes belges. Sous prétexte d'une route des vins, ils embarquent pour un voyage en Espagne, dans l'espoir d'avoir leur première expérience sexuelle. Rien ne les arrêtera, pas même leur handicap. L'un est aveugle, l'autre est confiné sur une chaise roulante et le troisième est complètement paralysé.
Ouais, et ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, ils vont dans un bordel.
Oui.
Qui permet voilà, de...
Enfin,
de...
ils vont pas que dans un bordel, d'ailleurs. Ils font tout un...
Il y a toute une péripétie, mais leur but est quand même d'arriver dans ce bordel qui permet d'avoir des... Voilà. Okay.
Et alors, c'est un film... alors déjà, il y a quelque chose qui n'est pas du tout dit. C'est un film où ils fuguent.
Oui,
au départ.
Tout à fait, oui.
Ils ne sont pas du tout autorisés par leurs parents à partir.
Bah non, si tu penses bien.
Ils fuguent et comme vous l'avez compris, aucun d'eux peut conduire. Et la personne qui conduit, c'est une Française, je crois.
Oui, tout à fait, oui.
Et elle est géniale.
Ah non, mais super
elle
belle.
Est géniale.
Elle est géniale.
Elle est... Pff, ça, c'est vraiment bah là, pour le coup, la fugue voyage initiatique.
Oui, tout à fait.
Et puis, dans cette veine-là, justement, d'intouchable avec ces films, avec tous ces gens qui roulent, et ben celui-là, il est vraiment super bon. Il est très touchant, il est très vrai. Et on passe vraiment du rire aux larmes, pour le coup.
Ah oui, ça, c'est vrai.
Avec voilà, des moments exquis. Et des moments très tendres.
Et puis moi, je trouve que ça aussi, ça montre une certaine vérité de la maladie. C'est qu'effectivement, il y a des moments où c'est super pesant pour ces jeunes-là et qui veulent essayer d'être, entre guillemets, normaux. Et c'est vrai que pour eux, c'est...
Vivre leur handicap avec l'amour. Quoi.
Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a ce côté-là où ils veulent passer quand même à travers et vivre des histoires d'amour et qui sont réduits à aller dans un bordel en Espagne pour avoir leur première.
Oui.
Mais finalement, vous allez voir, c'est vachement bien.
Non, mais franchement, moi, j'ai adoré. Hein.
C'est le conseil, vraiment.
Il y en a un autre, là.
Oui, et donc j'en parle.
À Cannes, en 2012, oui, pardon.
De Rouille et d'Os. Avec Marion Cotillard. Et alors celui-là, j'ai vu que la bande-annonce parce que j'ai
pas encore
pu le dénicher. Mais rien que la bande-annonce, ça m'a... Waouh, elle marche super bien.
Oui.
Moi, j'étais très... J'aimais bien qu'on me regarde. J'aimais bien sentir que je séduisais. J'aimais bien sentir que je les excitais. Mais après, ça m'ennuyait, en fait.
Stéphanie. Tu sais ce qui m'est arrivé?
On va se baigner?
Tu te rends compte de ce que tu dis? Moi, je suis quoi pour toi? Une amie? Une copine? Un genre de pote, quoi, comme Fouad et les autres? Si tu veux qu'on continue, faut faire les choses bien. Je te parle de délicatesse, moi. Tu sais très bien ce que c'est, t'as pas arrêté d'en avoir avec moi de la délicatesse.
Alors, en fait, c'est Marion Cotillard qui est une dresseuse d'orques, enfin, en tout cas, qui fait des spectacles dans
pas
un
dans
truc...
Pas dans le Seigneur des Anneaux, hein.
Style Marineland, oui, voilà. Orques comme Sauver Willy, en fait.
Voilà.
Et donc, elle est dresseuse et elle raconte qu'effectivement, c'est une belle fille d'un monde machin. Et avec un accident assez dramatique, elle va se réveiller et en fait, elle a les jambes coupées au niveau du genou. Et quelques temps avant son accident, elle avait rencontré un homme, mais qu'elle n'avait jamais rappelé, nanani, nanana. Finalement, elle va le rappeler après cet accident. Et ça va être assez incroyable. Il va y avoir une histoire d'amour entre eux, mais pas qu'une histoire d'amour. Donc, ce qui est
c'est
dit dans le synopsis, c'est...
redonner des goûts à la vie
ouais,
de Marion, quoi, en fait.
Voilà. Quand Ali la retrouve, la princesse est assise dans un fauteuil roulant. Elle a perdu ses jambes et pas mal d'illusions. Il va l'aider simplement, sans compassion, sans pitié. Elle va revivre. Mais
c'est beau, hein.
Ouais, mais c'est beau. Et en même temps, ça a l'air assez dur.
Oui, oui, voilà. Bah, c'est cet avantage qu'avait fait d'ailleurs Hasta la Vista par rapport à Intouchable, parce que Intouchable.
C'est pas du tout triste.
Bah, c'est pas que ce soit triste, mais à un moment. Bon,
c'est cliché.
Bon, après, c'est tiré d'une histoire vraie, donc
oui,
on le l'est quand même.
Ils ont clichéisé, ouais, voilà, c'est
oui,
ça.
Oui, mais voilà, c'est ça. Je veux dire, il n'y a pas un côté super pénible.
Hasta la Vista, je trouve qu'ils attaquent plus en profondeur
voilà,
le
ça.
Mal de vivre, quoi.
Ah ouais, carrément. Puis ils sont jeunes et puis...
Voilà. Bah, c'est-à-dire qu'on essaie de quand même d'avoir
cet
humour.
Ils sont pas riches et beaux, en fait. Quoi.
Parce que pour en revenir au thème de l'émission, on arrive à quand même, à malgré la douleur, malgré leurs problèmes, à tirer quand même à un moment de l'humour. Quoi.
C'est ça. Et là, on est sur quelque chose... Voilà. Dans Intouchables, ils survolent effectivement le handicap pour raconter une histoire. Et dans Hasta la Vista, comme dans De Rouille et d'Os, le sujet, c'est pas tant le handicap, parce que ça, c'est un fait. Le sujet, c'est la manière de le vivre et surtout la manière de mal le vivre, parce que c'est des personnages qui sont mal et qui vont arriver à évoluer pendant le film.
Comment reconstruire sa vie après, quoi.
Ouais, voilà. Ou pendant. Comment construire sa vie pendant.
Mais dire avant, parce que Marion Cotillard, tu la vois avant
tu
sur ses jambes
avant,
et après, quoi.
Certains
c'est un film de Jacques Audiard, je crois. Hein.
Oui, tout à fait. Et c'est là où le cinéma... Enfin, moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est qu'il va nous aider, il va nous emmener pour nous faire explorer quelque chose. Alors qu'effectivement, dans Intouchable, moi, j'ai vu qu'une série de clichés avec des choses que je connaissais et que j'avais pas forcément besoin de revoir. Bon, ok, on a souri, on a rigolé. Il y a des moments un peu émouvants parce qu'il sait tenir une caméra et mettre la bonne musique au bon moment.
Oui, tout à fait.
Mais là, c'est vraiment le film et l'histoire qui marquent. Et on a vraiment l'impression, effectivement, d'avoir exploré un côté de quelque chose qu'on connaissait pas. Donc dans Hasta la Vista, c'est un fait, on voit donc ce voyage initiatique qui est un sujet qui est repris par beaucoup de gens, beaucoup de cinéastes pour faire des films, c'est classique.
Louise, hein.
Voilà, c'est classique ce voyage, cette fugue, mais c'est une fugue pour un but, une fugue pour se soigner en fait, d'une certaine
voilà,
manière.
Voilà, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que eux à un moment ils sont enfermés parce qu'on voit leurs parents qui les aident et tout, et je veux dire ils sont assistés. Alors que là à un moment, bah, ils sont tout seuls, il faut qu'ils se démerdent tout seuls, tu vois. Il y a certes cette femme qui est avec eux.
Mais bon,
à un moment, ils sont tous les trois tout seuls avec eux-mêmes.
Puis c'est bien de parler des handicapés dans la société un peu, quoi.
Voilà,
ne pas les oublier, quoi.
Et puis voilà. Et donc dans De Rouille et d'Os, c'est aussi cette même histoire d'explorer une partie de ces femmes qui peuvent être certes très sûres d'elles, mais qui d'un coup vont perdre une partie. Elle va perdre une partie d'elle-même.
Bah, c'est-à-dire, c'est perdre leur image, l'image qu'elle donnait à la société.
Et donc là, je pense que ça va explorer son statut de femme, mais sa confiance en elle. Enfin, c'est hyper important de parler de ça.
Y a, alors pour en faire un petit résumé vis-à-vis de comment ça s'appelle, de l'émission d'avant, il y avait Né un 4 juillet où dans, évidemment Tom Cruise, il y avait aussi cette histoire de sexualité, c'est-à-dire qu'à un moment c'est un jeune homme qui avait une histoire d'amour, qui est parti au Vietnam et quand il revient, et ben effectivement il a l'image qu'il donne à toutes ses membres de sa famille, mais il y a aussi, et puis c'est aussi ce côté de l'Amérique blessée après la guerre du Vietnam, et à un moment ben effectivement il y a ce problème de la sexualité qui se pose, quoi, qu'il est obligé d'aller dans un bordel au Mexique pour pouvoir satisfaire ses besoins, quoi.
D'accord.
Certes.
Une bonne note, un autre film, Anna?
Ouais, j'en ai encore trois.
Vas-y.
Le dernier film, donc, coup de cœur de ce mois-ci, c'est Moonrise Kingdom, qui est un film qui est à l'ouverture au Festival de Cannes cette année.
Oui.
Et donc, c'est un film de Wes Anderson, que vous connaissez peut-être. Ça te dit quelque chose?
Non, laisse-le chercher.
Je laisse chercher. Il a fait par exemple le truc avec le capitaine Cousteau là. Non, j'exagère, mais.
Le monde du silence.
Non, pas le.
Le grand bleu.
Non. Les gars, comment ça s'appelle? Le truc comment... où ils ont tous des bonnets rouges là. Comment ça s'appelle?
Ah, Blanche-Neige et les Sept Nains.
Oh, tu m'agaces. Bref, je retrouverai.
Avec les bonnets rouges.
Mais non, mais.
Je connais les bonnets M, mais.
Oh, c'est insupportable.
Les Dents de la Mer.
Non.
Armageddon.
Pas du tout.
Attends, ouais, c'est Anderson.
Armageddon, c'est quoi le rapport? La vie aquatique.
Ah oui, ça me parle. Hein.
Non, ça vous parle pas? Il a fait Rushmore, La famille Tenenbaum, La vie aquatique, oui. À bord du Darjeeling Limited et Fantastic Mr. Fox, par exemple.
Ah oui, ça me parle. Ça. Il a animation,
fait...
ça.
Oui, tout à fait.
Il a fait Moonrise Kingdom, donc il sort le 16 mai 2012. Il est sorti le 16 mai 2012. Attention, la distribution, je vous donne que trois acteurs sur tous. Bruce Willis, Edward Norton et Bill Murray. Déjà, ça vous donne un peu le goût.
D'accord.
Du truc.
D'accord, ça va pas mal.
Alors, c'est l'histoire d'un petit village, une petite bourgade sans prétention, où il y a des enfants, des adultes, des grands, des vieux, des scouts. Un truc vraiment classique, avec des couleurs, donc les couleurs de Wes Anderson. L'univers de Wes Anderson est toujours un peu particulier. Et en fait, il y a deux enfants qui vont tomber amoureux l'un de l'autre, mais deux petits, quoi. 10 ans, je pense, qui vont s'écrire des lettres et qui vont se donner rendez-vous pour partir ensemble. Donc, encore cette histoire de voyage initiatique. Et donc, eux, ils se tirent et ils vont faire des trucs géniaux, genre ils vont se baigner.
C'est la version, les jeux interdits, non?
Non. Ils vont faire des pique-niques, enfin bref, des trucs de mômes mignons. Et en fait, tout le village va se mettre à leur recherche et ça a l'air d'être juste magique. Déjà, moi, j'aime beaucoup Wes Anderson et son humour. Mais là, apparemment, c'est un prodige. Tout le monde dit, toute la presse, toutes les critiques sont positives.
Je crois qu'il y a des très bons films cette année à Cannes. Hein.
Ah oui, ça c'est
clair. Je crois que j'ai vu Des Hommes sans loi, là.
Oui,
un film sur la prohibition qui a l'air d'être aussi très très bien. Quoi.
J'ai pas vu ça. Mais en tout cas, ça, Moonrise Kingdom, c'est juste... Ça, il faut absolument aller le voir,
d'accord,
vraiment,
okay.
Pour de vrai.
Ben voilà, on attend que Kate le passe au pestel.
D'accord.
C'est
voilà,
un appel.
S'il vous plaît, Kate. Mm. Et donc les films qu'il ne faut pas aller voir, selon moi, mais comme vous ne m'écouterez pas forcément...
Ah, si.
Il ne faut pas aller voir Si, No Sex and Son.
D'accord.
De Christophe Turpin, avec Fred Testo, oui. Antoine Duléry et Julie Ferrier. On n'y va pas.
D'accord.
Et il ne faut surtout pas aller voir non plus. Non, là, je suis un peu American Pie 4.
Non, ça non plus. moi, je dirais l'intérêt d'aller voir ça au cinéma, je ne le vois pas.
Si, il pourrait en avoir un, parce que c'est-à-dire que moi, American Pie, c'est un des premiers films que je suis allée voir au cinéma toute seule avec mes copains.
Oui, d'accord, voilà. C'est plus un humour de groupe. Oui.
Voilà, et genre, c'est un peu comme dans La Boom quand ils vont voir le film. Enfin bref, et donc, c'est vraiment le...
Je ne me rappelle pas qu'ils aient utilisé des parts de tarte dans... Ouais. Dans La Boom. Hein.
Non, mais.
Non, mais
ils vont
les Arts de Provence,
ensemble.
À la rigueur, mais
ils vont
je peux pas comparer,
ensemble.
Là.
Donc, c'est juste pour le souvenir. C'est vrai que American Pie, ça a beau être nul et nié. Ça donne envie quand même de voir ça, parce qu'on se rend compte que...
Moi, c'est typique du cinéma américain, enfin de l'humour
gras.
Américain, gras, c'est-à-dire c'est tout en dessous de la ceinture.
Attends.
Non, mais je veux dire, après, à un certain âge, c'est fait pour un certain âge. Hein,
c'est
le
film
d'ado.
C'est un film d'ado, c'est un film d'ado, c'est clair. Et American Pie 4, ce que je te dis, c'est qu'on serait peut-être tenté d'aller le voir un souvenir, entre guillemets. Mais en fait, surtout pas, parce qu'il paraît que c'est une merde innommable. Ce qui ne m'étonne pas, hein, mais encore pire que les autres.
Moi, je préfère regarder Marie à tout prix, quoi. Avec
Là, au moins, on rigole.
Oui, ça, c'est vrai.
Donc voilà, surtout pas, n'y allez pas.
Donc maintenant, la séquence du best-of.
Donc cette semaine, il y aura donc le prénom, I Wish et Bellflower.
C'est ça.
Et nous allons voir le prénom. comme Gwen est féru de théâtre, donc c'est une adaptation
et surtout de...
Patrick
Bruel.
Formidable, je suis ravie.
Tu n'as pas le choix.
Non, mais je sais. Alors, moi j'ai regardé, bon, le prénom c'est bon, on a fait sa pub, on va pas le vanter pendant 10 000 ans.
Il est très très bien.
Si je me rappelle bien, on l'avait quand même pas mis au nu. Hein.
Alors, sinon, en autre film, la semaine prochaine, des choses beaucoup plus intéressantes, il y a par exemple I Wish, Nouveau Secret, qui est un film japonais de Hirokazu Kore-eda. Et j'ai réussi à le dire. Ouh ! Et donc ce film...
Ils sont deux, non ?
Non.
Kore-eda.
Donc ce film, avec Maeda Koki et Maeda Oshiro, ainsi que Otsuka Nene.
Voilà. Superbe, que tout le monde connaît, bien sûr. Oui. Moi, je ne connais que comme acteur.
On sent la génération manga.
Oui, non, mais c'est rigolo parce que Maeda Koki et Maeda Oshiro, ils ont le même nom, le même prénom. Non, ça ne vous fait pas rire. Bon.
Si.
C'est l'histoire de deux enfants. En gros, en fait, les parents se séparent et ils font un truc que je trouve un peu absurde, c'est que le père part avec un gosse et la mère part avec l'autre.
Ouais, super.
Bon, et en fait,
le juste milieu.
Moi, je suis pas trop fan des films japonais généralement, mais en fait, là, c'est une histoire de rêve, nos vœux secrets, I Wish, enfin une histoire de vœux où ils vont essayer de réunir leurs deux parents, et en fait, ils vont faire. Il y a le TGV qui est en train d'être construit. Quand les TGV vont se croiser, ils vont faire un vœu, le vœu que la famille se réunisse à nouveau. Et c'est assez sympa parce que c'est une incursion dans la vie japonaise actuelle. Avec très occidentalisé, avec la mondialisation et tutti quanti. Mais du coup, ça a l'air rigolo. Et encore une fois, d'ailleurs, je crois que c'est le mot d'ordre de cette semaine, c'est un voyage initiatique. Ils vont faire des fugues pour essayer d'aller voir les TGV de leur côté à chaque fois. Et le fait que ça soit raconté par deux enfants et un film autour de deux enfants avec toute leur innocence, c'est très mignon.
Je crois que c'était justement, ils servaient de la ligne à grande vitesse pour se rapprocher l'un l'autre.
Presque.
Ouais. I Wish est un beau film de sensation que chacun appréciera à la hauteur de son humeur et de son penchant pour la nostalgie de l'enfance.
Ouais, le canard enchaîné, ils disent que Hirokazu Kore-eda est décidément un poète du quotidien et réussit de nouveau un délicieux film d'enfant, tendre et émouvant. C'est le mec qui a fait Nobody Knows et Still Walking.
Donc ils disent aussi que c'est un film gracieux qui capte la réalité impalpable du lien fraternel.
Tout à fait, je pense qu'ils ont raison. Donc un très bon film à mon avis. Tarif réduit, lycéen. Sinon, ils passeront aussi Bellflower de Evan Glodel. C'est son premier film et il est donc réalisateur et aussi acteur avec Evan Glodel, donc Jesse Wiseman et Tyler Dawson. C'est l'histoire de deux copains qui sont persuadés en fait que ça va être la fin du monde ou je sais pas trop quoi. Enfin, en tout cas, ils sont fans de comics et ils vont faire des trucs tous les deux. Ils vont construire une voiture qui s'appelle la Medusa, et avec armée d'un lance-flammes et une voiture de guerre. Donc, ils font un projet assez incroyable. Il y a un des mecs qui va rencontrer une nana et donc ça va un peu briser
le duo.
Voilà, le duo. Et en fait,
encore un amour fraternel, je pense.
Ouais, mais c'est, je crois que ça dépasse ça, parce que moi, je me suis dit, ouais, ça va encore être un truc où les gonzesses foutent le why. Mais en fait, ça dépasse ça parce que c'est un film... en tout cas au niveau de l'image et du son, il y a je sais pas, c'est un peu les films un peu bordéliques là, mais qui sont tellement savoureux, je sais pas comment dire ça, avec de la lumière dans tous les sens, de la bonne musique, les voitures qui font des dérapages et en même temps les voitures elles sont un peu déglinguées et les mecs ils sont complètement déglingués et les gonzesses elles sont aussi complètement déglinguées et c'est toute cette histoire là qui fait que...
Oh, je pense que c'est un film qui remet un peu le couvert sur la guerre des sexes.
Ouais, pas tant. Tu penses, toi ?
Ouais.
Non, mais regarde, désincarné, constellé d'éclats nostalgiques, d'instants qui auraient pu advenir, hanté par les fétiches post-apocalyptiques de Mad Max, cette histoire consume ses ardeurs dans un flamboiement assez vain mais non sans charme. les inrocuptibles. Et c'est celui des cahiers du cinéma qui est assez bien. C'est Météore romantique et anarchique. Bellflower possède toute la générosité et l'énergie que l'on peut attendre d'un premier film. C'est vraiment ça, c'est cette énergie qui se
d'accord,
dégage
voilà,
du truc.
Ouais, c'est vraiment...
ça claque, quoi.
Ouais.
Donc voilà. Donc moi, j'irai voir I Wish et Bellflower et puis vous irez voir Le Prénom.
D'accord.
Non, bah, par contre, moi, je veux bien aller voir Bellflower.
Oui, ça a l'air d'être pas mal aussi.
Ouais, tout à fait. Après The Wish,
ils disent que c'est une graine de film culte à la créativité emballante.
Ouais, après, tu sais, c'est toujours pareil, les premiers réalisateurs comme ça, c'est leur premier film, donc on sait pas trop, mais en tout cas, ça a l'air vraiment prometteur, quoi.
Bah, c'est-à-dire que c'est souvent là où ils veulent mettre le maximum, parce qu'ils ont une foison d'idées, ils sont dans une créativité de tous les instants, et donc ils se lancent vraiment à fond, et c'est souvent... dans le deuxième que là on voit
ça tient la route.
Voilà, si ça tient
la
route.
En tout cas,
c'est là, dire.
Ça a l'air de tenir la route, Bellflower, parce que en plus c'est une histoire de voiture. Mais oui, Gwen
quel
me mimait la voiture.
Oh là là.
Mais en tout cas, moi j'aime bien les histoires de déglinguer comme ça et elle a l'air pas mal.
Ça fait un peu penser à Thelma et Louise.
Pas tant que ça, Thelma et Louise, c'est plutôt léché là son. Là, on sent. C'est comme
il y a
si
la voiture.
C'est comme si on... quand on caresse le film, il y a l'écharde qui rentre dans ta main. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout.
L'image est superbe. Bravo.
Non, mais tu vois, c'est...
Ouais, mais tout à fait. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est pour ça. Non, mais à la rigueur, moi, ça me dirait bien. Donc, d'aller le voir, celui-là. Donc, la semaine prochaine, on fera une séance sur les films d'époque, costumés, histoire de France. Merci. Salut, les jeunes. Ciao.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side. Always look on the right side of life.
Come on, give up.
Always look on the right side of life. Always look on the right side of life.
First things happen to see, you know.
Always look on the right side of life.
What you got to lose, you know? You come from nothing, you go back to nothing. What you lost? Nothing will come from nothing, you know what I say?
Oh,
cheer up, you old bugger.
Come on,
give us a grin. There you are.
Life.
See? The end of the film. Incidentally, this record's available
always
in the foyer.
Look on the right.
Someone's got to live as well, you know? Who do you think pays for this rubbish?
Always look on
the money
right
back, you know? I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money
always
back.
Always look on the right.
Alors la semaine prochaine, Amis Sportifs, cette émission est pour vous puisque nous recevrons dans nos studios la célèbre star Jenna Deronet pour nous parler de la nouvelle vague.
Tu vois,
Gwen est partie.
Gwen est partie.